Vous écoutez RTL.
Il est 7h.
RTL Matin, Yann Boucherie, Bernard Poirette.
Bonjour Yann.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté une résolution réclamant sans délai un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours en Syrie.
Un texte voté à l'unanimité, mais la Russie a obtenu des concessions. À la une également, le marathon d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture. Le président a passé plus de 12 heures porte de Versailles avec des échanges parfois musclés. Marine Le Pen, elle, est en Alsace. La présidente du Front National achève dans l'Est son tour de France de la refondation. L'Hexagone se prépare au grand froid. On le disait, des températures polaires sont annoncées dès ce soir alors que les sans-abri sont déjà très éprouvés cet hiver. Une visite vertigineuse dans les Pyrénées, au pic du Midi précisément, avec un plancher en verre et un kilomètre de vide sous ses pieds. Et puis les sports et le football. L'affiche PSG Marseille ce soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les amabilités ont déjà commencé.
Après plusieurs jours d'atermoiement et après aussi malheureusement la mort de centaines de civils dans l'enclave syrienne de la Ghouta, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont parvenus hier à un texte commun pour permettre au moins l'évacuation des malades et des blessés les plus graves.
Plus de 500 civils, on le rappelle, ont été tués en une semaine par les frappes du régime de Bachar al-Assad, un régime soutenu par la Russie et dont il a fallu tenir compte lors des longues discussions diplomatiques à New York, Philippe Corbet.
Oui, les négociations ont été ardues pendant plusieurs jours pour éviter un nouveau veto russe. Que de temps perdu, s'indigne l'ambassadrice américaine.
Pourquoi, dans les trois jours qu'il nous a fallu pour adopter cette résolution, combien de mères ont-elles perdu leurs enfants dans les bombardements? Tout ça pour rien, car nous voilà à voter un cessez-le-feu qui aurait pu sauver des vies depuis des jours. Et après tout ce temps, presque rien n'a changé dans la résolution, à part quelques mots et des virgules.
Et c'est aussi à la Russie, sans la nommer, que s'adresse l'ambassadeur français.
Il revient maintenant au soutien du régime de faire assurer sans délai le plein respect de la cessation des hostilités. Chaque minute compte, car chaque minute peut faire basculer des vies.
Mais pour éviter son veto, la Russie a obtenu que soient exclus du cessez-le-feu les groupes que le régime syrien juge terroristes.
La résolution est explicite. Elle ne s'appliquera pas aux opérations militaires contre Daesh, Al-Nusra et d'autres organisations affiliées à Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes.
C'est là que le respect du cessez-le-feu risque d'être contesté, car Assad considère que les groupes rebelles sont terroristes.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont prévu de s'entretenir aujourd'hui par téléphone avec Vladimir Poutine. Les deux dirigeants souhaitent appuyer la mise en œuvre de cette résolution de l'ONU et travailler sur une feuille de route afin de retrouver une paix durable en Syrie.
Emmanuel Macron qui a passé tout son samedi dans les allées du Salon de l'agriculture.
Plus de 12 heures porte de Versailles. Le record de François Hollande en 2013 a été battu. Le chef de l'État parfois chahuté et même sifflé par des membres du syndicat des jeunes agriculteurs, ce qu'il n'a pas vraiment apprécié et il le leur a fait savoir. Alexandre Ruech, agriculteur pro-glyphosate, qui a apostrophé Emmanuel Macron, relate son échange au micro RTL de Dominique Tenza.
Alors, si on a arrêté de siffler, c'est parce que dans nos troupes, les chefs, on a demandé d'arrêter de siffler. Hein, sinon, on aurait continué. C'est pas lui qui nous dit si on doit siffler ou pas siffler. Cet échange a bien reflété le personnage. Quand on le dérange, il réagit. L'échange a été ensuite cordial, hein, quand il a compris que le ton n'était pas à sa place et que j'ai pu reposer le débat. S'est rendu compte de l'erreur qu'il faisait.
Est-ce que vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous l'avez senti sincère ?
Très moyennement. Très honnêtement, j'ai pu discuter avec d'autres représentants politiques. Chez certains, j'ai ressenti de la sincérité. Chez lui, aucune. Aucune. Et c'est une personne qui maîtrise de bout en bout sa communication. Et quand ça lui échappe, il est déstabilisé. La preuve en est.
Alexandre Ruech des jeunes agriculteurs au micro RTL de Dominique Tenza. Nicolas Hulot, lui, ne viendra pas porte de Versailles, comme il le confirme ce matin au journal du dimanche. En revanche, le ministre de la Transition écologique, qui s'est battu l'an dernier pour une sortie du glyphosate en 3 ans, se dit prêt à envisager des exceptions pour les agriculteurs qui se trouveraient dans une impasse sans solution de rechange. Le salon au menu du grand jury RTL Le Figaro LCI, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, sera en effet l'invité de Benjamin Sportouche entre 12h et 13h.
À 15 jours du congrès du Front National qui va se tenir à Lille, Marine Le Pen a terminé hier en Alsace sa tournée des fédérations.
Oui, en perte de vitesse depuis l'élection présidentielle et son débat raté, la présidente du FN se veut désormais le moteur d'un parti au fonctionnement fonctionnement plus démocratique, avec de nouveaux statuts et surtout une nouvelle dénomination, Samuel Goldschmidt.
La tournée des militants, c'est pour préparer les troupes au Big Bang qui attend le parti, notamment le changement de nom, grande affaire qui semble favorablement attendue.
Beaucoup de gens tiquent sur le front. C'est un nom du passé, certainement.
Changer de nom, c'est changer... Sûrement, il restera les uns des certains anciens, mais ça veut dire qu'on ouvre le parti à la jeunesse et à l'avenir, et au futur. Et ça, c'est important.
Le nom, c'est un mauvais passé, quoi. On pense tout de suite à Jean-Marie Le Pen, quoi.
Du coup, l'exclusion du patriarche par sa fille ne fait plus débat.
On peut aimer Marine Le Pen et pas forcément son père, et vice-versa.
Donc l'éviction, la séparation entre les deux, pour vous, c'est plutôt une bonne...
J'ai trouvé ça super, ouais. Alors s'ils débarquent en congrès, ben, ils feront comme ils peuvent, mais moi, personnellement, je préférerais qu'ils s'abstiennent.
Mais s'ils se rangent volontiers derrière la chef du moment, la présidentielle laisse des traces de doute.
À défaut d'autres candidats, c'est la bonne personne, c'est la présidente élue à la majorité.
Moi, je suis pour ce qu'elle dit. Après des miracles, on n'en fera plus. Hein.
Il y a bien une nièce plus jeune qui est évoquée.
Je pense qu'au niveau des militants, elle serait mieux vue. Marion. Elle est jeune, elle est... L'erreur de Marine, elle a un peu cuté son débat et puis elle a loupé l'élection.
Mais Marion restant en dehors de la politique, ses militants vont se contenter de l'existant.
Le reportage de Samuel Goldschmidt en Alsace pour RTL. Nous l'évoquions hier matin, les fouilles privées ont été fructueuses dans la maison de la famille Seznec à Morlaix. Un os humain a été exhumé, peut-être une tête de fémur et un morceau de pipe a aussi été découvert. D'autres recherches vont être menées sous le contrôle de la justice. Guillaume Seznec avait été condamné, on le rappelle, en 1924 pour le meurtre du conseiller général Pierre Quémeneur, dont le corps n'a jamais été retrouvé.
Des températures ressenties, nous disons bien entre moins 10 et moins 20 degrés par endroit. La France s'apprête à vivre une semaine très très froide.
Le plan grand froid d'ailleurs a été réactivé dans plusieurs départements car les nuits s'annoncent glaciales et vivre dehors constituera sans doute un calvaire pour les sans-abri. Gauthier Delon-Bugard est allé à la rencontre de David, il est SDF depuis 5 ans à Paris.
Depuis le début de l'hiver, David s'installe sur le perron de cette église avec son chien Starsky assis sur des morceaux de carton. Devant eux, cette petite assiette avec quelques pièces de monnaie. Et dans les mains de David, un chocolat chaud encore fumant déposé par une habitante du quartier.
Ça fait plaisir, ça va réchauffer.
Le quinquagénaire au visage émacié et à la barbe rousse a déjà passé 5 hivers dehors. Il prévoit tout un équipement pour résister au froid.
Je mets plusieurs manteaux, plusieurs pulls, 3 pantalons, des couvertures à droite, à gauche, des écharpes, des gants. Pareil pour le chien, pour gagner un degré par là, un degré par-ci.
David dort peu, saisi par le froid. Il a du mal à trouver le sommeil, mais pas question d'aller dans des centres d'hébergement.
Dans les centres, vous vous réveillez, il manque la moitié des affaires.
Il préfère la cour intérieure d'un immeuble.
Dans une cour intérieure. Il n'y a pas de courant d'air et il ne pleut pas. Puis j'ai mon matelas et mon couchage.
Avec la vague de froid qui s'abat sur la capitale, le SDF sent que les Parisiens deviennent plus généreux.
Quand il neigeait et qu'il y avait du vent et que ça me cinglait dans le nez, je faisais 10 euros toutes les minutes. Les gens, ils étaient super généreux.
Quelques dizaines d'euros qui permettent à David de tenir dans la rue, de se réchauffer et de nourrir son chien Starsky, son compagnon de route depuis plus de 5 ans.
Le reportage de Gauthier Delon-Bugard pour RTL.
Direction les Pyrénées maintenant, avec une visite à déconseiller absolument à toute personne sujette au vertige.
Et oui, le célèbre pic du Midi dispose en effet d'une nouvelle attraction au bout de sa terrasse de 700 mètres carrés qui offre un panorama époustouflant sur la chaîne montagneuse. Il s'agit d'un promontoire en verre de 12 mètres de long, mais surtout 1000 mètres de vide en dessous.
Ah, quelle horreur.
Sensation garantie, Denis Grangeau.
Oui, et d'abord, l'installation du ponton dans le ciel, c'est désormais le nom officiel, a d'abord été une prouesse des équipes techniques pour un chantier à 3000 mètres d'altitude en plein hiver.
On a une impression d'être en apesanteur.
Daniel Soukaz, le directeur du Pic du Midi.
Il faisait à des moments, sur le ressenti, on était à moins 28, et il posait les garde-corps, les grillages du garde-corps en enlevant quelquefois les gants parce qu'ils étaient obligés.
Et aujourd'hui, comme sorti tout droit des rochers, une passerelle métallique avec des garde-fous, 12 mètres de long, avant d'arriver au bout, et là...
Il y a une vitre en verre en dessous de nos pieds et on a l'impression de tomber. Donc c'est vraiment sensationnel.
On a l'impression d'avoir 10 fois moins de force dans les jambes, mais à part ça, ça va.
Ça flippe ou pas?
Non.
Regardez en bas, quoi. Allez, courage, hein, RTL.
On peut pas regarder par terre, non.
Alors que moi, si. Ah, non.
C'est impressionnant, puisqu'on voit certaines personnes qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Le but était un peu là, quoi, de faire frissonner les gens.
Et pour ceux qui douteraient de la solidité de la passerelle, aucun risque. Le ponton dans le ciel peut résister à une charge de 4 tonnes et demie.
Quel froussard, ce Denis Grangeau, en reportage dans les Hautes-Pyrénées pour RTL.
On marque une pause dans le journal de Yann Boucherie. Ensuite, on ouvre la page des sports avec en particulier un classique du football, Paris Saint-Germain, OM, au menu ce soir. Yann, ouvrons la page des sports avec le football et la 27e journée de Ligue 1. Des résultats importants en bas de tableau en particulier.
Oui. Angers l'a emporté à Lille 2-1 et sort de la zone rouge alors que le LOSC pointe à la 19e place. Victoire d'Amiens à Nantes 1-0. Dijon a dominé Caen 2-0. Même score pour Rennes face à 3. Match nul 3 buts partout entre Toulouse et Monaco. Enfin 2-2 entre Guingamp et Metz avec une vive altercation sur le bord de la touche entre les deux entraîneurs, Antoine Comboiré et Frédéric Hans. Le breton Comboiré a expliqué les raisons de ce clash au micro RTL de Vincent Nori.
Simplement, j'étais en train de discuter avec l'arbitre, voilà, sur une faute, mais tranquillement, donc à lui dire, d'ailleurs ça s'est bien passé avec le quatrième arbitre, et M. Hans est venu me voir pour me dire d'aller dans ma zone. Et comme j'ai horreur, donc qu'on vienne en plus s'adresser à moi donc, de cette façon-là, je lui ai fait comprendre qu'il n'est pas cinquième arbitre, et puis surtout qu'il reste à sa place. Quoi, voilà. Mais bon, ça y est, on s'est expliqué en fin de match, et tout est rentré dans l'ordre.
Il y a eu des mots quand même, hein.
Ah mais moi je suis quelqu'un de très respectueux, mais je suis respectueux avec les gens respectueux quoi. Avec les ânes, ben, de temps en temps c'est bien de leur tirer les oreilles. Voilà, merci.
Antoine Comboiré au micro RTL de Vincent Nori. Frédéric Hans appréciera. Au classement, Paris possède 11 points d'avance sur Monaco et 13 sur Marseille en attendant les 3 rencontres de ce dimanche. Et quelle rencontre ! Bordeaux-Nice à 15h, le derby Lyon-Saint-Etienne à 17h et enfin le choc PSG-OM à 21h à vivre sur RTL dans un soir de Ligue 1 exceptionnel de 20h à minuit.
Je vous rappelle que les supporters stéphanois ne vont pas à Lyon et les Marseillais ne vont pas à Paris parce qu'ils sont interdits de stade. On en reparlera avec notre invité à 8h15. Alors justement, le classique du championnat va concentrer les regards ce soir alors que les hostilités ont déjà commencé par micros interposés.
Et oui, Paris entame une série décisive avec en point de mire le match retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il est donc important de se mettre en ordre de marche dès ce soir face au vieux rival de la Canebière. Au match aller, Paris avait arraché le nul de partout dans les dernières secondes. Et l'OM est persuadé qu'il peut tenir tête à l'ogre du championnat. Nicolas Georgerot, le message est clair.
Oui, avec un discours offensif, l'OM qui croit en ses forces, à l'image du milieu Dimitri Payet, qui lance ce duel tant attendu chez les supporters marseillais et parisiens.
On a montré à l'aller que on avait une équipe et je pense que c'est un point aujourd'hui dans lequel on est supérieur au PSG. Le seul point où je ne les envie pas, c'est d'être aujourd'hui moi dans le plus grand club français, mais surtout d'avoir une équipe. Et on l'a vu, que jouer en équipe, c'est beaucoup mieux que d'avoir des individualités.
Le match nul à l'automne au Vélodrome a donné des idées à cet OM invaincu sur la scène nationale depuis début janvier. Reste à briser cette série de 15 rencontres consécutives sans succès face à Thiago Motta et ses partenaires qui ne veulent rien lâcher.
J'ai pas besoin de rappeler, je pense que tous on a la responsabilité aujourd'hui quand on joue avec le maillot de Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il faut gagner, on le sait. Et surtout en classico. Et on va affronter ce match-là comme une finale.
Comme une finale, oui, comme une montée en puissance. C'est une séquence cruciale de 10 jours qui s'ouvre pour le Paris Saint-Germain avec ses deux confrontations contre l'OM et le 8e de finale retour contre le Real Madrid.
Et à ce propos, Madrid s'est imposé hier tranquillement 4-0 devant Alavés avec un doublé de Ronaldo, un but de Bale et un pénalty de Benzema. Un mot de Ligue 2, Brest l'a emporté hier au Paris FC 1-0 et remonte à la 8e place du classement.
En rugby, le tournoi Destination a occasionné hier une sorte de séisme tout de même dans le rugby du vieux continent.
Ah oui, avec un coup de tonnerre à Édimbourg, une première victoire de l'Écosse face à l'Angleterre depuis 10 ans. Dans un Murrayfield en transe, le 15 du Chardon a dominé celui de la Rose 25-13. Par ailleurs, l'Irlande a battu le Pays de Galles 37-27 et reste seul en lice pour réaliser le Grand Chelem. On jouait aussi hier la 18e journée du top 14. Petite victoire de Montpellier sur Bègles-Bordeaux 11-10. Succès d'Oyonnax à Clermont 18-12 et d'Agen au Stade français 36-34. Victoire de Castres face à Lyon 33-22 et de Pau devant le Racing 24-15. Au classement, Montpellier conserve la tête avec 6 points d'avance sur le Racing. À suivre aujourd'hui, Toulouse-Brive à 12h30 et La Rochelle-Toulon à 16h50.
Et disons tout de même un petit mot du bilan des Jeux Olympiques de Pyeongchang puisque la cérémonie de clôture c'est en début d'après-midi.
Oui, cérémonie à laquelle assistera une délégation nord-coréenne de haut niveau qui est arrivée tôt ce matin de l'autre côté de la frontière. Dans le camp tricolore, c'est la patineuse Gabriela Papadakis, médaillé d'argent en danse sur glace avec Guillaume Cizeron, qui sera le porte-drapeau lors de cette cérémonie. La délégation française, on le rappelle, repart avec une moisson de 15 médailles. On termine avec un mot de tennis. Lucas Pouille s'est qualifié pour la finale du tournoi de Marseille en battant le Biélorusse Ivashka 6-3-7-6. Il affrontera donc en finale le Russe Kachanov, tombeur de Thomas Berdych 6-3-6-2.
Espérons que Papadakis ne va pas perdre une deuxième fois la bretelle de son haut, comme elle l'a fait sur glace. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui a coûté, semble-t-il, quelques dizaines de micros points. Merci beaucoup. On se retrouve à 8h pour votre prochain journal.